Christophe, je te laisse la parole.
Merci.
En octobre 2001, avec l'amendement d'un amendement au sein de la loi de sécurité quotidienne, encadrant sévèrement les tripartis sous peine de confiscation de matériel et d'amende élevée, certains ont pu faire le rapprochement avec le Criminal Justice Bill adopté au Royaume-Uni en 1994, qui s'attaquait entre autres là aussi aux rêves non déclarés avec des mesures particulièrement dures, comme à l'époque, je ne sais plus le nom, mais l'interdiction de se rassembler en plus de 10, je crois, ou 8 autour de l'écoute de musique dite répétitive, et il donnait une définition de ce que c'était que des musiques répétitives. Donc, au final, on a quand même deux situations différentes, au sens où, en France, après des affrontements, des compromis ont pu être trouvés entre le mouvement underground et les autorités. On a deux situations et deux époques bien différentes, entre le début des années 90, qui était un peu dans l'euphorie de la chute du mur de Berlin pour l'Angleterre, et le début des années 2000, en 2001, qui était juste après les attentats du 11 septembre, et donc qui a entraîné l'adoption directe de l'amendement sans discussion. Mais néanmoins, deux situations qu'on peut rapprocher par le fait qu'effectivement, il y a l'adoption d'un texte de loi ciblant spécifiquement un type de manifestation lié aux musiques électroniques de danse, ce qui n'a pas eu lieu en Europe. Encore faudrait-il, je ne sais pas voir ce qui s'est passé en Tchéquie en 2005, en tout cas après 2003, il y a eu d'autres dispositions dans d'autres pays. Pourquoi je dis ça, c'est qu'en 2003, Laurent Fleury faisait paraître dans la Revue française de sociologie un article tentant d'expliquer les raisons de ce qu'il considérait comme une exception franco-britannique des free parties. Les raisons invoquées par Laurent Dessier étaient une similitude de deux contextes politiques restrictifs qui mécaniquement auraient renforcé les rêves non déclarés, un attrait symbolique avec le côté contestataire des free parties et un attrait économique dans la supposée gratuité des free parties, donc ce qu'ils voyaient comme un ensemble de bonnes raisons, de choix rationnels liés à des contextes similaires qui entraîneraient donc les mêmes conséquences. La cible de cet article est aussi, sur le fond de cette explication, la théorie dite néo-tribaliste qui représentait l'approche dominante du phénomène techno en France. Théorie pour laquelle les rêves sont des instances de réagrégation sociale, de recréation d'un sens collectif dans une société individualiste. Donc voilà, je ne parlerai pas de l'histoire des scènes techno en France ou en Angleterre, ni même de l'Europe du reste, parce qu'à chaque fois, parler de contextes bien particuliers, dans le cas de l'Allemagne, avec le rôle des musiques électroniques de danse, avec la dynamique de réunification, de l'Espagne dans un contexte même tardif de Movida, de aussi toute la mouvance des centres sociaux occupés autonomes en Italie, dans lesquels la mouvance techno-underground a trouvé un allié. Je ne parlerai pas non plus des États-Unis où finalement cette histoire est assez peu documentée. Alors peut-être que Frédéric Trottier me contredira, mais il me semble que c'est peu documenté, à part la sortie d'un livre récent de Michelangelo Matos, Underground is Massive, How Electronic Music Conquered America, qui est sorti en 2015, qui a l'air de mieux documenter cette histoire. Bon, moi, je vais rester donc dans cette similitude ou cette supposée exception franco-britannique, en fait, pour aborder des approches et des caractérisations des groupes liés à la techno croisés, voire proposés dans les deux pays. Plus particulièrement, donc, les rêves et les musiques électroniques de danse ont constitué une sorte d'exemple paradigmatique, voire le révélateur de l'avènement d'une sensibilité postmoderne. On verra que la cohérence du postulat postmoderne reste très faible, mais qui donne lieu à des caractérisations assez opposées de part et d'autre de la Manche. Bon, commençons par l'Angleterre, où les musiques électroniques de danse et les rêves ont ravivé tout un débat assez ancien sur la théorie des subcultures ou sous-cultures. concept de sous-culture qui a une histoire assez ancienne, parce qu'il est issu de l'école de Chicago, où dès les années 20, il servait à désigner des groupes et des formes de solidarité en contraste avec les normes dominantes. Donc pour cette raison, c'est un concept qui a toujours été un modèle attrayant pour l'explication de groupes ayant des comportements et des valeurs alternatives par rapport au courant dominant. Et de fait, il a été approprié par toute une série de théories aux États-Unis et en Angleterre, notamment pour l'étude des jeunes et de la délinquance. Bon, ici, le concept de subculture renvoie à la façon dont il a été développé dans les années 70 par le Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, qui, eux, ont lié les subcultures non plus avec la délinquance ou la criminalité, mais avec les mouvements musicaux qui émergent dans les années 60-70 avec la classe ouvrière. Dans l'ouvrage « Resistance through Rituals » de Hall, Jefferson et le troisième, je ne sais plus, l'ouvrage qui fait la synthèse sur cette question. Dans cet ouvrage, les sous-cultures sont comme un texte qu'il s'agit d'interpréter à travers la création de sens qu'elles proposent comme force collective, au sens où l'hypothèse de base, c'est que les sous-cultures jeunes qui appartiennent à la classe ouvrière découlent d'une expérience de subordination. Et donc c'est une activité sous-culturelle qui est finalement interprétée comme une forme de politique symbolique. Donc les années 90, voilà, avec l'émergence massive des musiques électroniques de danse en tant que phénomène social, fondent sur ce concept, et on parle de club culture. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un contexte qu'on a un peu oublié, mais qui c'est un post-mur de Berlin, censé marquer l'avènement du triomphe définitif du capitalisme, de la fin de l'histoire, donc un contexte de post-modernité que les musiques électroniques exemplifieraient en fait, en quelque sorte. Et donc à partir de cet état de fait, il y a toute une série de travaux et de sociologues, entre autres, qui ont cherché à soit amender, soit à remplacer cette théorie et ce concept de sous-culture, au sens où la postmodernité finalement rendrait obsolète cette théorie, qui postule une trop grande cohérence alors que nous serions dans l'ère du fluide et de l'éclectisme. C'est des travaux qui se fondaient en outre sur des critiques qui avaient été émises dès les années 80 sur la surcohérence des subcultures. En 80, il y avait Stan Cohen qui avait déjà critiqué le caractère de construction théorique des subcultures qui ne coïncident pas avec la façon dont elles sont vécues. L'article célèbre de Gary Clark, plaidoyer pour les pulls de ski, où justement lui aussi critiquait le caractère trop cohérent et autonome des subcultures, mais vous voyez ça comme une sorte de production qui en faisait une sorte de production symbolique pure enclavée dans une société, alors qu'il y avait déjà ce caractère de groupement diffus, dilué, voire hybride. Donc les auteurs du courant postmoderniste se fondent là-dessus. Antonio Melchi, Ilgonda Ritvent, Stephen Miles, Ben Malbone et David Muggleton, Andy Bennett qui est australien, pour les plus importants, qui reprennent ces critiques et qui en fait ajoutent le fait qu'ils promeuvent une compréhension individualiste du monde social et du fait une sorte de refus comme ça des déterminations sociales, de classe, d'ethnie ou de genre, ou en forçant le trait mais presque pas trop. Là je me base sur un article de Shane Blackman qui retrace cette histoire qui est assez claire, où finalement il n'y aurait plus que des choix individuels et des groupements éphémères et fluides dans ces regroupements techno, et même vu qu'il y aura un flou typiquement postmoderniste entre culture d'élite et culture populaire, de même les structures sociales seraient devenues instables. On va mettre davantage l'accent sur la recherche de sens dans la pratique individuelle de la sous-culture, qui est en fait des des pratiques de consommation, en fait, un aspect sur les pratiques de du consommateur. David Muggleton définit le post-subculturel comme étant basé sur le choix personnel et non sur la structuration en termes de classe ou de sexe ou d'origine ethnique. L'identité subculturelle serait comme un signifiant flottant et individuel détaché des structures sociales. Donc ça serait juste une histoire de jeu dépolitisé dans le pleasure dome postmoderne. Donc ces auteurs-là, du coup, ont vu dans le concept de tribu développé par Maffesoli en France un moyen justement de décrire ces groupes de jeunes et leur mode d'existence dans ces conditions postmodernes. Michel Maffesoli faisant valoir que le néo-tribalisme se caractérise par la fluidité et des rassemblements occasionnels et la dispersion. Donc voilà, les rêves et les manifestations liées aux musiques électroniques de danse se caractérisent par la diversité des groupes qui les composent, une diversité d'affiliations sous-culturelles. C'est vrai que c'était l'époque où on voyait des rockers, des rastas, des punks, tout un ensemble de tribus, pour parler comme eux, qui se regroupent dans les rêves, donc qui seraient typiquement révélateurs d'une sensibilité postmoderne. Donc le concept de tribu sert de convoyeur en fait de cette théorie pour ça, et donc qui affirme la centralité du choix de l'individu comme facteur clé dans la formation de l'identité. Donc, j'en reste ici pour le contexte anglais. Si on passe maintenant sur la France, en France, la théorie des subcultures, tout comme en général les cultural studies de Birmingham, ont longtemps été ignorées, si on excepte les travaux fondateurs de Richard Hogarth, qui ont rapidement été traduits dans la collection de Bourdieu, mais pour le reste, c'était un peu le blackout. Alors peut-être qu'on contredira, mais je pense que la première... J'ai pas fait une recherche ultra exhaustive, mais il me semble que la première publication, c'était en 96, un dossier de la revue Réseau sur Cultural Studies. Et après, il faut attendre même 2008 pour la traduction du classique Dickettidge Subculture The Meaning of Style. Et la traduction bien encadrée avec un appareil critique totalement utile, parce que c'était quand même beaucoup plus tard, donc en 2008, la traduction d'une anthologie de textes des Cultural Studies. Donc en France, la théorie néo-tribaliste a aussi globalement dominé le champ des travaux sur les rêves et la techno, mais sans toutefois donc être en dialogue ni même en se référant à l'ensemble de ces travaux qui en Angleterre sont de longue date interrogés sur le sens et la nature des groupements, des mouvements musicaux. Et on va voir du coup le fait que l'analyse postmoderniste des musiques électroniques de danse en France prend un tout autre visage. Pardon. En France, en fait, on a mis l'accent sur la caractérisation de la rêve comme fait. Du coup, ce qui l'arrime à toute une tradition d'analyse anthropologique de la fête, de Durkheim, Buvignaud, Georges Bataille, toute une galaxie d'auteurs qui sont réinjectés dans les analyses. Avec Maffesoli comme un peu le chef de file, parce qu'il a parlé des tribus avant qu'on parle de tribus de marketing, et dès 80, il a publié donc L'ombre de Dionysos, contribution à une sociologie de l'orgie, où il voyait dans le livre, il promouvait l'excès, l'ivresse, la débauche des fêtes, qui renvoie, je le cite, à la fusion matricielle, communautaire et par voie de conséquence à la fécondité sociale. Donc, tout un ensemble de projets, ils ont dominé, parce qu'en fait, en termes de publication, c'était quand même eux les plus visibles. Donc, il y avait tout un ensemble de doctorants, de chercheurs affiliés ou proches de la théorie néo-tribaliste, notamment au centre d'études sur l'actuel et le quotidien. On a vu dans les rêves une nouvelle incarnation de la forme faite. Et donc pour Maffesoli, les rêves manifestent une forme de démocratisation de la pensée de Georges Bataille. En fait, il s'y exprime Alors, je cite, un désir d'échapper au fantasme du chiffre et de la comptabilisation de toute chose qui habite la société de consommation. Dans la préface d'une des premières thèses publiées sur les règles, celle de Stéphane Ampart-Zoumian en 2004, Effervescence techno, Maffezoli voyait donc dans le ravissement de la fête techno quelque chose qui caractérise le nouvel esprit du temps, qu'il nommait de manière métaphorique le Jonesiac. Alors là, c'est assez marrant, parce que si en Angleterre, avec l'appui de la théorie néo-tribaliste, les musiques électroniques ont été vues comme typiques de l'ordre consumériste post-moderne, en France, sur le fond de ce même auteur, ce même courant, la rêve comme se soustrayant à la logique de consommation qui caractériserait un ordre profane consumériste, où le temps est mesuré en termes de productivité, dixit François Gautier, qui est inquiet. Donc d'un côté, on passe de la consommation de soi dans la fête, et de l'autre côté, on est plutôt dans la consommation du style de vie. De façon aussi surprenante, on peut même trouver, chez Stéphane Ampart-Zoumian notamment, une caractérisation de la fête postmoderne comme réponse aux conséquences de la modernité individualiste. En fait, c'est quelque chose qui résonne fortement avec ce que les auteurs de Resistance Through Rituals appelaient la réponse sous-culturelle comme adaptation aux transformations de l'environnement. Ainsi, on lit donc un article un peu fondateur de Phil Cohen, je cite, « Mods, parka, skinheads, crombies, tous représentent dans leurs différents registres une tentative pour reconstituer quelque chose des éléments de cohésion sociale disloqués dans la culture de leurs parents pour les combiner avec des matériaux empruntés à d'autres fractions de classe symbolisant l'une ou l'autre des options alternatives à cette culture familiale. » Bon, du côté français, du coup, un peu dans le même sens, l'approche néo-tribaliste des rêves, vous voyez, des instances de réagrégation communautaire, une réponse sociale venant vivifier le sens collectif, où je cite Ampart-Zoumian, qui dit « La fête techno se manifeste comme une réponse à l'absence de communauté, voire la principale réponse sociale capable de soulager l'individu de son individualité. » Et après, finalement, dans la suite de cette convergence inattendue, il apparaît presque logique qu'un auteur, un doctorant de Michel Maffezoli, en vienne à utiliser la notion de subculture, sans faire référence au débat anglais, pour parler de la subculture technoïde. Donc là, on revient à une première boucle, où au tournant des années 2000-2010, son livre « Techno 2, une subculture en marge » publié en 2012 aux éditions du CNRS. Donc, dans ces années, la caractérisation de la subculture technoïde par Lionel Pourteau se retrouve très proche de la subculture telle que les Cultural Studies des années 70 l'avaient décrite. Voire aussi un peu proche de la tradition de Chicago, parce qu'il cite Baker, avec ce lien posé avec la déviance. Et on y retrouve le même type de relation homologique entre la forme musicale et les attitudes et les valeurs du groupe. Pour tout, justement, la subculture technoïde subit la précarité économique et la répression policière, et donc elle exprime une rupture envers le monde des adultes, comme une défiance ou un symptôme du doute radical envers les valeurs dominantes. Donc c'est plutôt une hybridation, puisque on reste quand même dans cette perspective postmoderne chez Pourteau, hein, où au sens où il s'y exprime un besoin de transe que la perte de légitimité des normes de rationalité de la modernité permet de faire réémerger. Donc voilà, la subculture ici devient une sorte de prothèse collective, et on passe le déviant technoïde passe du besoin de différence envers la société globale à l'identification à la minorité. Précisons effectivement que la théorie subculturelle de Birmingham, dans une optique marxiste, interrogeait le lien entre la subculture et le pouvoir pour analyser en fait dans quel sens cette désaffiliation générationnelle était en fait un signe révélateur de contradictions sociales plus générales, une optique typiquement marxiste. Alors que dans le cas de la subculture technoïde, il n'y a pas de contradiction, il y a une évasion, ce qu'il appelle, reprenant Maffezoli avec la sécession plébis, ou la montée sur l'Aventin. C'est donc une forme de sécession à durée limitée qui manifeste un instinct de conservation du groupe. Voilà, donc j'arrête là un peu sur ces deux appropriations croisées assez étonnantes entre France et Angleterre. Et pour se demander comment on peut rendre compte finalement de ces appropriations croisées au fil du temps et des différentes localisations. Il faut s'interroger sur le statut donc, de la musique dans ces analyses. Historiquement, les analyses anglo-saxonnes mettent vraiment surtout l'accent sur la musique comme signe de ralliement. On s'interroge surtout au signe, à la signification. Les post-culturalistes, entre guillemets, prennent plus en compte la musique. Je pense à Ben Malbone qui a fait un travail sur le club. Et les analyses françaises, par contre, mais là, en plus, ça dépasse le cadre strictement néo-tribaliste, se sont beaucoup davantage focalisées sur la fête. Et la musique qui apparaît souvent comme un adducteur de transe, hein, donc Gilbert Rouget est l'auteur de référence, souvent cité. Donc l'entrée par la fête au demeurant est judicieuse si l'on peut poser la question de l'importance de l'appréciation de la musique en situation de diffusion sur un sound system. L'intervention de Bastien Gallet ce matin a été tout à fait précieuse pour ça, donc je vais garder en tête tout ce qu'il a dit, parce qu'il y a tout ça qui joue aussi. Donc si on garde en mémoire la question de la dimension culturelle, corporelle, non discursive, il y a une complexité d'analyse qui échappe au fait aux problématiques de la transe. Et là justement, si on revient dès les années 80, il y a des auteurs comme Lawrence Krosberg, qui ont travaillé sur le rock, qui ont bien montré que le rock déjà ne pouvait pas se réduire à une analyse discursive ni stricto sensu musicologique. Et évidemment, c'est ce que en évidence les musiques électroniques de danse. Je pense à un article tout à fait éclairant là-dessus, les travaux de Jérémy Gilbert en général sont très bien, je trouve, qui tout en se situant en héritage critique des cultural studies, a bien rappelé comment les musiques électroniques de danse ont posé des problèmes évidents au modèle explicatif un peu classique, cherchant à comprendre ces musiques en termes de code et de signification faudrait déchiffrer. C'est quand même des incompréhensions qui sont persistantes, hein, parce qu'un des derniers exemples significatifs rappelés par Ian Biddle et Marie Thompson dans un livre sur Sound Music Affect, où ils parlent de cet épisode un peu polémique des manifestations contre les budget cuts à Londres, parfois violentes, qui ont suscité tout un ensemble de polémiques, parce que les rassemblements en fait faisaient au son dubstep et du grime, et donc il y a tout un ensemble de critiques qui ont réagi en jugeant que ces musiques en fait étaient incompatibles avec des actions politiques, qu'elles n'avaient aucun message, et que, au regard d'une certaine tradition de la musique engagée, on ne comprenait pas en quoi ces musiques pouvaient être utilisées dans les manifestations. Donc une alternative finalement à cette perspective herméneutique se trouve dans l'exploration non de ce que la musique signifie, mais de ce qu'elle fait, et donc de ses effets. Ce qui pose donc la question d'une approche matérialiste de la musique, différente de celle qui décrète une transe inductrice de techno, inductrice de transe, et donc par voie de conséquence de fusion collective dans les analyses tribalistes. Parce que, et de fait, nombre de caractérisations de la techno, qu'elles soient positives en fait, ou négatives, sont fondées sur c'est jamais dit si clairement, mais sur une même logique au fond, qui fait finalement de la musique une forme de stimulation dirigée sur les individus essentiellement passifs qui subissent ces effets et sont entraînés dans la transe. Donc considérer positivement, hein, tout ça, c'est accompagné d'une promotion, d'une politique esthétique des rêves dans leur capacité de régénération du lien social, où ce serait finalement là l'équivalent festif de l'esthétique relationnelle des installations qui était développée dans, pareil, autour des années 90-2000 par Nicolas Bourriaud. Considéré négativement, on va dénoncer tout ça comme une perte d'autonomie individuelle, une régression collective dans la vibration musicale, où là on rejoint donc toute la tradition critique des industries culturelles de masse et leurs tendances totalitaires, ou tel qu'Adorno les a menées, mais aussi il y a récemment un livre du collectif Pièces et mains d'œuvre qui tout à fait dans ce sens. Et juste voilà, bon, notamment Rive et Semprin, qui est de l'encyclopédie des nuisances, qui voyait donc dans les masses défilant pour la Love Parade de Berlin en 97, il voyait là les véritables enfants de l'unité allemande, parce que pour lui, c'était un cas exemplaire des individus atomes façonnés par l'isolement sensoriel de la société industrielle de masse, pour lesquels l'essentiel, c'est de vibrer. Donc la politique esthétique de la techno, là ici ce serait une tendance fasciste où derrière les mots d'ordre d'unité se profile l'unanimité obligatoire et la haine de l'autonomie individuelle. Dixit, Raim et Centrum. Donc voilà, enfin, essayer de considérer autrement en termes de soit de socialisation, soit d'aliénation, l'expérience esthétique occasionnée par la techno, il faut donc fonder sur déconstruire la conception classique de la sensibilité, hein, de la dimension sensible, donc de ne pas opposer une intelligence active et une sensibilité passive, en considérant le domaine la part active des sensations, donc ce qui nous fait sortir de la psychologie expérimentale et de son modèle stimulus-réponse, qui en fait est le fond des analyses dont j'ai parlé. Donc ne pas concevoir une action unilatérale de la musique sur un sujet passif, mais un échange de sensibilité en acte entre un DJ et un musicien, et des auditeurs danseurs qui perçoivent activement la musique dans la danse. Ça pointe vers aussi une relation corporelle à la musique qui ne s'oppose pas en fait à la relation cognitive médiatisée par le discours, mais qui a sa propre autonomie et son domaine, qui est celui de l'affect, au sens ici spinoziste, d'un pouvoir d'affecter et d'être affecté, ce qui nous permet de nous détacher de cette causalité, une causalité linéaire, où en fait pour que la musique soit efficiente et affecte l'auditeur danseur, elle doit s'articuler à la capacité de celui-ci d'être affecté. Et ce n'est pas une contrepartie passive de la musique d'affecter son auditeur. Donc c'est un affect aussi actif, être affecté. Donc pourquoi je dis ça, c'est donc l'affection techno, l'affect techno, c'est pas de l'ordre des propriétés d'un sujet, mais c'est un événement, c'est quelque chose qui se produit dans une relation musicale. Alors là je me base sur toutes les analyses de Brian Massoumi notamment, sur The Autonomy of Affect. Et donc, aussi, ça positionne l'analyse au niveau de l'expérience, comme transaction entre un sujet et un environnement, et non, on ne part pas du sujet, ni de l'objet. Donc, il n'y a pas de correspondance directe entre un affect techno et des idées politiques. Les performances musicales et plastiques des rêves n'ont par conséquent pas de dimension politique intrinsèque. Elles peuvent néanmoins trouver des formes d'articulation avec une dimension politique selon certaines modalités qu'il faut analyser. Mais ici, je ne rentre pas là-dedans, mais ici, c'est ce que je vais parler maintenant, c'est comment penser donc une dimension collective de tout ça sans verser dans le tribalisme fusionnel. L'affect techno renvoie à une forme collectivement organisée d'expérience musicale et historiquement stratifiée. Tout ce qu'on a vu ce matin sur le club, hein, ça montre que c'est des formes, c'est pas juste un stimulus qui est amené sur une foule, c'est une forme collectivement organisée qui a ses propres formes, ses propres processus. Et donc, envisager comme événement, ça veut dire que ce n'est pas un contenu transportable, mais quelque chose qui, à chaque fois, doit être produit dans la performance musicale collective. Mais pour autant, s'il n'y a pas de fusion, il n'y a pas non plus d'individus affectés séparément par la musique. Donc pour saisir cette dimension collective de la performance musicale, il faut considérer ce qu'on peut appeler le travail d'accordage affectif réalisé par l'ensemble des participants. Là, je reprends un concept de Daniel Stern. Au sens où les participants ne sont pas dans un pur face-à-face entre la musique et en fait, ils dansent et ils reçoivent la musique collectivement. Ça veut dire quoi? Au sens qu'ils ne sont pas seulement sensibles à la musique, mais à la façon dont les participants dansent et reçoivent la musique. C'est plus un triangle que deux qui sont face à face. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la réception musicale, il faudra ajouter tout ce qui ressort du niveau des affects de vitalité qui se manifestent dans l'expressivité de la danse et dans les mouvements, au sens où donc, les graveurs sont sensibles à l'énergie qui se dégage des comportements et des façons de danser, à l'expressivité des mouvements de danser, et tout autant qu'à la musique. Et c'est ces aspects de vitalité qui fournissent ce qu'on peut appeler la matière de cet accordage affectif, dans lequel les rappeurs s'accordent non seulement sur la réception de la musique, mais aussi via la danse sur la façon de la ressentir. Et ça présente une forme de ce qu'on peut appeler un processus continu, dans lequel chaque façon de danser finalement est une appropriation ayant son propre style, et aussi une façon d'introduire en décalage et de produire une variation dans l'événement commun de la réception musicale. Et c'est ces variations qui permettent aussi de maintenir l'intensité dynamique de la réception. Et évidemment, l'interaction musicale entre les rappeurs et le DJ est bien sûr une composante de cet accordage, et l'intensité de ces sensations musicales est-elle aussi modulée par les DJ à l'aide de diverses techniques, accélération, ralentissement, effet de montée, de descente, pour citer les plus basiques, pour maintenir aussi cette intensité en introduisant des variations. Donc, variations comme moyen de maintenir l'intensité. Donc, c'est tout un procédé qui diffère de ce qu'on pourrait avoir dans le rock au sens classique, qui tend vers un point paroxystique auquel succède une chute. Là, c'est plus une variation qui est de l'ordre d'une succession de plateaux d'intensité, pour reprendre le terme de Benson à propos des musiques balinaises. Donc des plateaux d'intensité qui composent un relief avec des phases de montée qui se stabilisent, qui ralentissent, pour former un nouveau cycle, amener un autre plateau d'intensité, sans que en fait, tout cela ne tende vers un point culminant final. Donc une relation complexe d'harmonisation collective qui est l'objet de la performance musicale et qui nous permet d'éviter cette doxa un peu de la fusion et de la transe, au sens où cette approche en termes d'accordage affectif permet de traiter des différences dans l'unisson, mais aussi bien de la concertation, on va dire, dans la différence. Pour être un peu tardien sur le vocabulaire. Donc pas d'uniformité, mais des différences affectives dans le même événement, au sens où donc évidemment il y a bien un public de rêveurs qui s'accordent collectivement, plutôt qu'un ensemble d'individus qui fusionnent dans un tout collectif indifférencié, ce qui fait toute la différence entre un public et une foule, pour justement reprendre Gabriel Tarr. Je m'inscris dans un contexte 90-2000, je ne sais pas comment ça se passerait maintenant. Mais je dirais que nombre d'amateurs ont découvert et ont appris à apprécier cette musique dans les rêves. C'est pour ça que je pointais tout à l'heure l'expérience de l'importance de l'expérience en situation. Bon, c'est quelque chose qui a été noté par une majorité d'observateurs, même si tous n'interprètent pas cela de la même façon. Mais en tout cas, dans cette perspective, les rêves sont moins des lieux de réagrégation collective que en fait, des vecteurs de propagation de la techno. Donc, c'est-à-dire que dans les faits, on expérimente la techno, on fait connaissance, des idées circulent, on est motivé, ça donne envie de faire de la musique, de poursuivre, d'organiser des fêtes à son tour. c'est qui donne un processus de rayonnement imitatif, où justement les fonctions des fêtes apparaissent ici comme un vecteur de diffusion des pratiques et de formation des scènes, ce qui donne une autre configuration finalement, au sens où c'est pas les médias traditionnels comme la radio ou le disque qui sont les vecteurs de diffusion de la techno, voilà la différence du rock, comme l'a montré Richard Peterson. On ne peut pas envisager la techno sur le même plan. Là, on est plutôt dans une autre configuration où les disques sont des matériaux qui circulent, des matériaux qui servent au DJ, mais ils n'ont pas la même centralité. En tout cas, ils n'ont pas la même centralité que dans la diffusion du rock. Les disques peuvent bien représenter un intermédiaire, une première forme de connaissance ou de la musique, mais en fait, ils sont, dans la majeure partie des cas, un éventuel préalable à la rencontre qui, elle, naît de l'expérimentation de ces musiques en situation. Au sens où l'expérience fondatrice n'est généralement pas l'écoute des disques, mais bien plutôt celle de l'affection techno en situation. Et donc l'expérience musicale sert ici la constitution d'une dynamique collective qui ne se résout ni en agrégation sociale, ni en choix individuel de consommateurs d'expérience, qui aura découvert un nouveau produit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer dans un terrain dans l'Est de la France, mais je ne suis pas le seul. Je pense notamment à un des meilleurs travaux qui n'a pas été publié là-dessus, c'est Samuel Bordreuil et Raphaël Sage sur Marseille, sur la Marseillaise, Marseille Salon Musicaux, où ils font vraiment le même type de constat, où sur la base d'une ou plusieurs expériences esthétiques concluantes, un monde social se forme. Devenir DJ, c'est-à-dire acheter des platines, fonder un label, ouvrir un magasin de disques, créer un site internet, organiser des rêves, acheter du matériel de sonorisation, tout un ensemble d'acteurs qui dessinent une dynamique d'expansion qui sert donc à la constitution d'un monde social. Donc, c'est pour ça qu'à ce stade, je poursuis un peu la proposition de David Lesmondal, il y a quelques années, qui proposait finalement de désencastrer l'étude, les pop music studies, des youth studies, hein, de désencastrer l'étude des musiques populaires et de la problématique des cultures jeunes, ces problématiques de... Est-ce que c'est des groupements homogènes ou fluides, affiliation éphémère ou durable, est-ce que c'est de la résistance ou de la consommation, des subcultures ou des tribus? C'est des questionnements qui restent tout à fait pertinents, qu'il ne faut pas mettre à la poubelle, mais en tout cas, si la musique a pu apparaître comme un terrain privilégié de ces problématiques, il y en a d'autres, peut-être qui seraient maintenant plus pertinents d'explorer, et en tout cas, de rester là-dessus, ça obscurcit souvent la compréhension. Et pour ça, évidemment, si on reboucle sur Chicago, on peut utiliser un autre concept. On n'a pas besoin d'être à l'avant-garde postmoderne. On peut utiliser un vieux concept de l'école de Chicago, qui est celui de monde social, et voir comment un monde social se constitue autour de ces musiques, qui est une façon, en tout cas pour moi, de pouvoir mettre au premier plan les espaces sans lesquels il n'existerait pas, et une économie sans laquelle ce monde disparaîtrait. Et donc mettre au premier plan des espaces, des situations et secondairement les acteurs qui leur sont attachés, pour reprendre le titre « Les moments et leurs hommes », c'est aussi reconnaître que les acteurs aussi appartiennent à des mondes multiples, et donc il ne saurait être question d'attachement exclusif à une subculture sur le mode un peu rigide. Et donc là je reprends tout l'article passionnant que j'ai lu de Daniel Sefai qui reprend la lecture du monde social, avec les concepts de Georges Mead. Donc voilà, un monde social, donc effectivement, qui avait quand même un sens de l'appartenance, ou en tout cas la conscience de faire quelque chose ensemble, qui implique une distribution de rôles, de statuts, de régulation de l'accessibilité, et qui développe son propre univers de discours. C'est pour ça que répondre à un gros cahier des charges, sur les discours. Donc effectivement, il y a tout un univers de discours propre, on va dire, à chaque monde social, au sein duquel les gestes et les symboles ont une signification commune pour ces membres, parce qu'ils le produisent dans ces situations de coopération. Et donc pour George Meade, les univers de discours ne peuvent pas être détachés de leur, ce qu'il appelle leur habitat expérientiel, ou sortis de leur usage. Et c'est dans ces univers de discours que nous donnons sens aux choses, aux actions et aux événements. Et ce qui c'est très utile pour aussi aborder cette, on en parlait tout à l'heure, c'est cette grande disparité de signification conférée à l'expérience des musiques électroniques, de danse en fonction des lieux, des milieux, des époques. On avait un exemple avec Jeff Miles qui nous parle de comment lui s'est développé à Détroit, totalement différent de si on se rend transporté à Manchester ou après. Cette histoire est mondiale, donc dans d'autres lieux. Donc des formes d'expérience très différentes qui ont des significations très différentes. Et même au sein d'un même pays, pour ceux qui ont un peu navigué dans ces milieux-là, on voit bien que l'univers des clubs ou des rêves underground, ou même selon les styles, à chaque fois, c'est des mondes sociaux quand même assez différents, même si, évidemment, il y a des zones de zones tampons et des intérêts qui sont des marginales séquentes, pour parler comment surgissent les organisations. Donc pour conclure, sur l'impossibilité donc de, si je reviens sur la première partie, de promouvoir un master concept qui pourrait être à la même de subsumer toute l'étude de ces mouvements. Et donc une grande diversité, une grande hétérogénéité des modalités d'expérience et des univers de discours, de signification, des mondes de la musique électronique. Merci.